Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Il y a 30 ans, le 8 décembre 1991, les présidents des trois États slaves, Russie, Ukraine et Biélorussie, réunis à Minsk, déclaraient que l'URSS en tant que sujet de droit international et réalité géopolitique n'existait plus. Boris Eltsine fut le syndic de faillite du communisme. Avant lui, Mikhail Gorbatchev avait voulu réformer le système. Trop tard et sans aide, ce fut l'implosion. Les États-Unis devenaient vainqueurs de la guerre froide. On aurait voulu qu'ils soient bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. On parlait d'un monde multipolaire. Il a fallu se satisfaire d'unipolarité, moment inédit que les États-Unis ont finalement raté. Regard sur le nouvel ordre mondial pour cette édition en partenariat avec la revue internationale Les Stratégiques, dont le dernier numéro a pour titre 1991-2021, rupture stratégique au pluriel. Nos invités, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Pierre Grosser, professeur agrégé d'histoire à Sciences Po et chercheur au centre d'histoire de Sciences Po, bonjour.
Bonjour.
Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Le paysage géopolitique global a changé en trois décennies. Il y a 30 ans, le monde baignait dans une douce euphorie. Il vivait la fin d'histoire. On se rend compte aujourd'hui que rien ne s'est passé comme prévu. On prévoyait un nouvel ordre mondial. C'est plutôt le désordre. Est-ce que l'on s'est trompé, Pascal Boniface ?
Ah oui, on s'est trompé à la fois dans l'analyse politique des États-Unis qui, comme vous l'avez dit, ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial qu'ils célébraient par ailleurs. Et on s'est aussi trompé dans tous les pronostics qui ont été faits à cette occasion. Puisque quand on regarde un peu ce que l'on disait à cette époque, c'était l'extension universelle de la démocratie, de l'économie de marché, un monde pacifique dans lequel les querelles idéologiques auraient pris fin. Et puis on parlait aussi d'un Japon qui allait dépasser les États-Unis. On ne parlait pas beaucoup de la Chine à l'époque. Et effectivement d'un monde qui allait être multipolaire puisque la Russie débarrassait des oripeaux du communisme allait connaître prospérité et dynamisme. Donc, ce que le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. Et l'Europe, qui devait rentrer à la fois dans sa géographie et son histoire et devenir la nouvelle superpuissance, certains disaient que le flambeau du leadership mondial allait retraverser l'Atlantique dans l'autre sens, eh bien, était un peu englué dans ses divisions et dans un élargissement qu'elle a toujours du mal à digérer. Donc, non, effectivement, les vagues d'optimisme et analyse, les choix politiques qui ont été faits d'une sorte d'hubris occidentale, hubris américaine, et les prévisions qui ont été faites ont été déjouées par l'histoire.
Alors, je vais rebondir avec vous, Pierre Grosser, sur ce qu'évoquait à l'instant Pascal Boniface, c'est le Japon, et on parlera bien sûr d'économie. Les États-Unis, il y a 30 ans, avaient bien perçu une menace de l'Asie à la fin des années 80, mais il était alors question du Japon. Lequel Japon connut une croissance économique époustouflante, le pays qui représentait le tiers du produit intérieur brut britannique en 1950, c'est-à-dire quelques années seulement après la guerre, disposait 30 ans plus tard de l'équivalent des économies britanniques, françaises et allemandes réunies. Avant l'implosion de l'Union soviétique, Tokyo était ressenti comme une menace supérieure à celle de Moscou par les citoyens américains.
Absolument. C'est difficile de se remettre dans cette époque, mais on se souvient de discussions qu'il y avait pour savoir s'il allait avoir une Pax Nipponica. Et la célèbre expression de Joseph Nye, soft power, c'était en fait pour s'opposer au Japon, qui lui n'aurait pas eu de soft power, à part manga, sushi, karaoké, Hello Kitty, enfin bon, les choses de ce type-là. Et donc, comme il y avait une concurrence économique, on essayait de trouver un nouvel échiquier dans lequel on était meilleur. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais je crois qu'il faut faire quand même attention, c'est à cette époque-là, de ne pas exagérer, je pense, l'optimisme qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il y a eu des vagues d'optimisme, il y a eu des gens qui étaient optimistes, plutôt à mon avis au milieu des années 90, mais en fait, on a été très très rapidement très inquiets, c'est-à-dire des conséquences de la chute de l'Union soviétique, de tous les conflits qu'il y a eu à la périphérie de l'Union soviétique immédiatement, qui ont commencé d'ailleurs en 87-88. Les guerres en Afrique, ça a été quand même entre le Libéria, le Sierra Leone, le génocide rwandais. Ensuite, en 98, les deux grandes guerres interétatiques autour de la RDC, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Quand on parlait justement de choc des civilisations en 93, avec cette fameuse expression de Samuel Huntington, Washington qui a fait Flores, c'est parce qu'on voyait ce qui se passait en Yougoslavie. On avait peut-être tort, et sans doute tort, d'utiliser cette grille de lecture. Mais il faut bien voir qu'il y a eu tout un pessimisme au lendemain. Et en plus, il faut bien voir aussi qu'un certain nombre de stratèges qui n'avaient plus à compter des missiles parce qu'il n'y avait plus de tensions Est-Ouest, ou en tout cas beaucoup moins, on essayait de dénucléariser l'ancienne Union soviétique, ils se sont recyclés. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de guerre pour le climat, de guerre ethnique. Et donc, je pense qu'on était plutôt dans l'inquiétude, même s'il y avait un optimisme considérable, genre, deux pays qui ont des McDonald's ne se feront pas la guerre, ce qui était l'expression qui était utilisée par M. Friedman et qui s'est cassé les dents avec la guerre entre les États-Unis et la Serbie.
Et alors, moi, je voulais revenir effectivement au Japon, toujours avec George Friedman, qui avait écrit en 1991 que l'effacement de l'URSS déboucherait nécessairement sur une guerre nippo-américaine. Est-ce qu'il y a, Pierre Grosser, une grande similitude entre la perception de Washington du rival démocratique japonais à l'époque et sa manière d'envisager aujourd'hui le rival communiste chinois?
Alors, il y a quelques éléments de ressemblance. D'abord, il faut voir que la Trump voulait se présenter en 88 et a fait sa campagne avec à peu près les mêmes termes sur le Japon qu'il l'a fait ensuite sur la Chine, c'est-à-dire qu'il prenait les emplois des États-Unis, qu'on avait été trop gentil avec le Japon puisqu'on l'avait protégé pendant la guerre froide, etc., etc. Oui, il y a eu des inquiétudes, mais on avait un moyen de pression parce que c'était l'allié. Je crois que la grande question, puisque Pascal a essayé de brosser justement cette approche générale sur trois décennies, c'est toute la question de la Chine. C'est-à-dire, est-ce qu'on a été naïf à l'égard de la Chine parce que finalement, 89 n'a pas eu tant de conséquences que ça, le massacre Tiananmen, puisque le président Bush père a voulu se rapprocher très très vite de la Chine. Et est-ce qu'on a été naïf en pensant qu'on pouvait la transformer? En termes économiques, est-ce que le fait d'investir là-bas n'a pas fait qu'on a été complètement dépendant des biens de consommation chinois, qui permettaient de comprimer les salaires aussi en Occident, ce qui évidemment a eu des conséquences pour les inégalités dans l'ensemble du monde capitaliste? Et puis la grande question, c'est à partir de quand est-ce qu'on a commencé à s'inquiéter de la Chine? Et en gros, les premiers débats sur la possibilité d'une rivalité chinoise, d'une montée en puissance chinoise, d'un problème chinois, c'est autour de 95-96. Et le premier rapport, puisqu'il vient d'avoir le premier rapport du Pentagone pour le Congrès, c'est 2000. Donc, les années 90, il y a une discussion. Est-ce que la Chine va être un problème demain, d'un point de vue militaire, plus que d'un point de vue économique? Et ça commence donc à ce moment-là, avec quand même la question qu'on se pose maintenant, c'est-à-dire est-ce que le profil bas des Chinois à partir de 89 était, une doctrine d'adaptation du monde, ou c'était finalement une manière de cacher leur jeu? Et qu'ils voulaient déjà être la grande puissance de demain, dès 89 ou même dès 78, 79, avec les grandes réformes que l'on connaît.
Alors, cacher leur jeu, ça a toujours été un petit peu la politique chinoise. C'est ne pas montrer qu'on est puissant, mais grandir, on y reviendra peut-être. Alors, sur le plan économique, Sylvie Matelli, au début des années 90, le capitalisme pense avoir gagné par chaos sur le système économique de planification porté par l'URSS. Le libre commerce est perçu comme la solution au sous-développement, à la réduction de la pauvreté. En 1990-2002, les échanges commerciaux doublent de valeur et la Chine connaît un essor économique fulgurant.
Oui, tout à fait. Et je crois qu'en économie, on ne s'est pas vraiment trompé. On a fait une analyse qui date d'ailleurs bien avant la guerre froide, qui date des années 70 et des différentes crises qui ont rythmé ces années 70. C'est le choix libéral. Le choix libéral qui n'est absolument pas une évidence à la fin des années 70, qui est un choix qui est fait par les États-Unis d'abord, suivi par le Royaume-Uni, bien évidemment. Et c'est un choix face au choc pétrolier, face à la concurrence des pays émergents, qui est de se dire, au fond, ce choix libéral est un choix dans lequel, de toute façon, nous sommes les plus forts, nous sortirons les plus forts. C'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné dans les années 80, à l'encontre bien évidemment de l'économie centralisée, comme vous l'avez dit, hein, avec cette idée que le capitalisme libéral tue par chaos le système d'économie planifiée. C'est un choix dans les années 90 qui va relativement bien fonctionner à l'encontre du Japon, qui est un pays finalement assez isolé, qui est un pays assez peu ouvert au reste du monde. Et dans le choix libéral, vous avez la possibilité d'exporter et de vous projeter, mais Mais vous avez aussi la contrepartie qui est l'ouverture de votre économie, ce que les Japonais ont assez peu accepté. Et finalement, c'est là-dessus qu'ils ont perdu et qu'ils se sont retrouvés déclassés. Donc je crois que d'un point de vue économique, les choix qui ont été faits dans les années 80 et puis renforcés dans les années 90 ont plutôt bien fonctionné. Et les conséquences négatives, la montée des inégalités, l'instabilité du système et les crises économiques sont des choses qui avaient été relativement bien anticipées. Mais la réponse qui était donnée était de dire, mais de toute façon, les conséquences négatives sont bien moins importantes que les conséquences positives de cette ouverture. Et d'ailleurs, prenez la crise de 2008. Mmh. La crise de 2008, pour les tenants de ce système, pour ceux qui profitent le plus de ce système, finalement, elle n'a été qu'un mauvais souvenir. La crise la plus forte depuis la crise de 1929. En quelques années, aux États-Unis, dès mi-2009, la croissance économique est de retour. Et pour ouvrir la période de croissance économique la plus longue de l'histoire des États-Unis. La période la plus longue qui avait précédé, c'est les années 2000 et l'essor de la Chine, qui avait largement porté l'économie américaine. Donc vous voyez que ce choix libéral a servi les intérêts des États-Unis. Ce qui a peut-être été mal anticipé, c'est la croissance économique de la Chine, c'est l'essor de la Chine et les conséquences que ça pouvait avoir. Alors c'est un essor de la Chine qui a porté l'économie mondiale, mais qui menace aujourd'hui le leadership américain, y compris dans le domaine économique et technologique. Et c'est peut-être là-dessus que les Américains se sont trompés. C'est qu'ils n'avaient pas pensé que le système pourrait être aussi efficace pour porter un pays sous-développé et l'amener à devenir le pays que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est pas encore une économie totalement avancée, mais qui est une économie qui a prospéré extrêmement vite. Il y a un chiffre qui est cité dans le dossier, je crois que c'est par Pierre Jaillet, et dans son article, et qui explique que au début des années 90, le PIB chinois est 20% inférieur au PIB russe. Aujourd'hui, il est 5 fois supérieur. Et là, on voit bien que ce n'est pas la Russie qui a profité en fait, de l'ouverture et du développement économique, mais c'est bien plus la Chine, et de manière assez paradoxale, puisque c'est le seul pays qui... Enfin, c'est un pays par rapport à la Russie qui ne s'est pas du tout ouvert.
Alors, Russie, puissance géopolitique, Pascal Boniface, davantage que puissance économique. La position de la Russie, elle a évolué, hein, c'est 30 dernières années, on l'a vu passer de la défensive à une posture plus arrogante. Que veut la Russie aujourd'hui ? Un retour vers le passé soviétique ou simplement elle cherche à se garantir une place au soleil ?
On peut faire bien des reproches à Poutine, mais pas celui de n'être pas réaliste. Et donc, quand on cite souvent sa phrase selon laquelle la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle a été la disparition de la plus grande Union soviétique, on oublie de citer une autre phrase qui, à mon avis, résume mieux sa pensée. C'est « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, mais celui qui veut la regretter n'a pas de tête ». Et donc, Poutine veut, avec des arguments assez faibles, puisque le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Italie. Et personne ne dira que l'Italie est une superpuissance stratégique. Mais donc, avec des arguments assez faibles, tire son épingle du jeu et il veut surtout effacer les humiliations des années 90, aussi bien d'ailleurs par rapport aux oligarques que par rapport aux puissances extérieures. Il veut restaurer l'ordre et beaucoup de Russes préfèrent l'ordre finalement au chaos. Et donc, c'est aussi une perception qui n'est pas souvent bien comprise en France, c'est que les raisons de la très grande impopularité de Poutine en Occident sont les raisons mêmes de sa popularité en Russie. Et donc, ce que veut la Russie, c'est être respecté. Poutine pense, et beaucoup de Russes pensent avec lui, que les Occidentaux ont profité de la faiblesse des années 90 et qu'ils ont pris leur ouverture pour de la faiblesse. Et donc là, je pense que alors, je dirais pas que tous les torts sont du côté occidental, mais pour le moment, il semblerait que la Russie et Poutine aient renoncé à des bonnes relations avec le monde occidental et que c'est peut-être une erreur stratégique. Alors que du côté américain, on nous dit que le défi stratégique majeur, c'est la Chine. On ne cesse de pousser la Russie dans les bras de la Chine, défaisant ce que Kissinger et Nixon avaient fait, d'attirer la Chine du côté occidental pour contrer la menace majeure de l'époque, qui était l'Union soviétique. Donc Poutine, je crois, ne veut pas recréer l'Union soviétique. Il est assez réaliste pour savoir que c'est impossible. Il ne veut pas envahir l'Ukraine. Il sait qu'il ne s'en sortirait pas et qu'il n'aurait pas à gérer cela. Mais il veut défendre les intérêts nationaux russes au plus possible, défendre l'ordre, assurer aussi son pouvoir et ça, la garantie de lui-même et de ses proches. Et donc... instaurer un ordre de plus en plus crispé parce que finalement il y avait une relative ouverture qui se fait. On voit bien pas la crispation par rapport à Navalny. On ne peut pas dire à la fois que Navalny n'existe pas et concentrer autant l'attention sur lui de répression. Donc il y a effectivement une crispation de Poutine par rapport aux Occidentaux. Il a renoncé aux bonnes relations et il veut exister alors qu'il sait que ses arguments sont limités. Et juste un mot pour finir. un de ses échecs quand même à Poutine, c'est qu'aujourd'hui encore, 75% des recettes d'exportation de la Russie sont constituées par les matières premières énergétiques, ce qui est quand même le signe de faiblesse, c'est le virage qui a été manqué par la Russie.
Un virage d'industrialisation. J'aimerais juste revenir sur deux choses par rapport à ce que vous venez de dire, Pascal Boniface. Poutine, populaire en Russie, on peut tout de même en douter l'égard aux informations que l'on a. Oui. Et Poutine ne veut pas envahir l'Ukraine. Alors, j'aimerais avoir votre explication sur la concentration de troupes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine.
Alors, Poutine populaire en Russie, il y a des sondages, il y a des analyses de sondages indépendants, contrôlés internationalement. Il a perdu de sa popularité lorsqu'il a fait élever l'âge de la retraite. Et il va certainement perdre encore de sa popularité s'il rend la vaccination ou le pass sanitaire obligatoire. Là, il aura effectivement... Mais sinon, les Russes lui sont reconnaissant d'avoir restauré le patriotisme russe. Mais il y a aussi une usure du pouvoir de la part de Poutine, bien sûr, mais il a des taux d'approbation de sa politique qui sont réels, qui ne sont pas factices, qui ne sont pas dus uniquement à la répression. Et il ne veut pas envahir l'Ukraine, où il masse des troupes à la frontière parce qu'il gesticule, mais il sait très bien qu'il n'enverra pas de troupes russes dans le Donbass parce qu'il se ferait face à une guérilla qu'il ne saurait pas supporter. Il y a quand même une expérience de se dresser la guerre de contre-insurrection. Les Russes savent ce que c'est par rapport à l'Afghanistan et à la Tchétchénie. Donc Poutine veut affaiblir l'Ukraine, mais justement, il préfère gesticuler aux frontières de l'Ukraine plutôt que de l'envahir, parce que c'est lui qui serait affaibli dans ce cas-là.
Pierre Grosser, avant de terminer cette première partie d'émission, j'aimerais avoir votre lecture de la place de la Chine aujourd'hui. Mais avant cela, puisque Pascal Boniface en a fait la transition, la relation russo-chinoise et l'axe russo-chinois, votre vision et votre analyse aujourd'hui ?
Oui, je crois que dans toute la période dont traite ce dossier de la revue que vous avez eu la gentillesse de présenter, les grandes évolutions, c'est quand même le rapprochement entre la Russie et la Chine, grande révolution qui n'a pas commencé. La normalisation, c'est 1989. Et depuis la fin des années 90, on voit le rapprochement. Donc, ce n'est pas seulement la faute des Occidentaux, ce n'est pas seulement la question ukrainienne. Ça a accru, évidemment, ce qui s'était passé. Mais c'est une tendance relativement lourde. Et d'ailleurs, en sens inverse, d'une certaine façon, le rapprochement entre États-Unis et Inde, qu'on ne pouvait pas voir pendant la guerre froide, est aussi une transformation majeure. C'est étonnant, puisque vous parlez de la Chine et on a parlé de la Russie, c'est qu'en fait, tout à l'heure j'ai évoqué qu'au début des années 90, on était quand même inquiet, c'est que l'idée que la Russie fonctionne un peu comme la République de Weimar, ça date du début des années 90, c'est-à-dire qu'on est à la restauration d'un ordre fondé en gros sur l'humiliation. Et pour la Chine, la comparaison avec 1914, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait une puissance montante, en gros, la Chine égale l'Allemagne, qui défie la puissance dominante, c'est aussi une comparaison qu'on fait dès le début des années 1990. Donc là, aujourd'hui, ceux qui misent sur les difficultés entre la Russie et la Chine sont de moins en moins nombreux et ont de moins en moins d'arguments. Je crois qu'on a fait beaucoup pour essayer de faire revenir la Russie dans le giron, dans ce qu'on pense être le giron européen. Mais de toute façon, la Russie n'a pas plus envie de balancer d'un côté plutôt que de l'autre. Il y a une approche aussi eurasiatique, c'est-à-dire qu'on est un peu un pont entre les deux, on joue les équilibres. On parle de plus en plus d'alliance. Alors, pas formel, hein, l'expression qui est utilisée par les Chinois, c'est que ce n'est pas une alliance, mais que c'est mieux qu'une alliance. Donc, avec ça, évidemment, on n'est pas toujours très, très avancé. Mais aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, on voit des frictions, certes, mais en gros que les relations sont excellentes entre les deux pays, qui ont tout intérêt, pas seulement à damer le pion aux États-Unis, parce que c'est ce qui inquiète les États-Unis, qu'il y ait une guerre à la fois contre les deux, voire en plus contre l'Iran, parce qu'alors là, en termes stratégiques, ça serait une catastrophe absolue. Mais tout simplement pour remplir aussi des vides de l'épuisement américain. On le voit en Asie centrale autour de l'Afghanistan, où c'est quand même largement les Russes et les Chinois qui mènent le jeu pour le moment. Alors il y a tout un tas d'autres puissances moyennes dont il faut tenir compte maintenant. Donc ils se marchent un peu sur les pieds, mais ils font très attention quand même de ne pas avoir d'escalade ou de tension. Et je pense que pour le moment, les relations entre les deux pays vont rester relativement bonnes pour un temps assez long.
L'aspect économique, Sylvie Matelli, oui, à cette alliance entre la Russie et la Chine.
Je crois que la Chine ne perçoit pas du tout la Russie comme une menace économique, mais plutôt comme un terrain d'opportunité, en fait, puisque la Russie, comme ça a été très bien rappelé par Pascal, n'a pas réussi, en fait, sa diversification économique et son industrialisation. Et il faut noter que sur ces 30 dernières années, il y a un certain nombre de pays qui ont réussi à prendre le train de la mondialisation et qui en ont beaucoup profité, mais les seuls pays qui se sont marginalisés, la Russie, les pays d'Amérique latine et un certain nombre de pays africains, américains sont les pays qui, justement, n'ont jamais réussi à diversifier leur économie, à s'industrialiser. Donc, ils sont très dépendants de leurs importations de produits manufacturés. Et je crois que, pour la Chine, la Russie est un allié stratégique et absolument pas une menace économique.
Merci Sylvie Matelli. On vous retrouve après le journal avec Pascal Boniface et Pierre Grosser. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur l'ordre mondial 30 ans après la fin de l'URSS pour cette édition en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro a pour titre 1991-2021, rupture stratégique au pluriel. Nous retrouvons nos invités Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, Pierre Grosser, professeur agrégé d'histoire à Sciences Po et chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. On va revenir sur la Chine avec vous, Pierre Grosser. Les rupture stratégique, 2001, entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Dans la première partie de l'émission, on est bien revenu sur la percée de la Chine. Les États-Unis qui ont été distraits par beaucoup d'autres choses que la concurrence avec la Chine. Je pense aux guerres contre le terrorisme, c'est-à-dire l'intervention en Afghanistan, l'intervention en Irak. Quelle lecture avez-vous de la façon dont la Chine a évolué ces 30 dernières années et parlez-nous aussi de la vision de Xi Jinping pour son pays, volonté de domination du monde, Pierre Grosser?
Alors si on reprend un tout petit peu la chronologie justement sur 2001, alors d'abord il faut rappeler qu'en 2000, quand Bush arrive au pouvoir, il regarde plutôt du côté de la Chine et de la Russie que de Ben Laden, finalement, il faut bien dire. Et qu'après le 11 septembre, il y a des très bonnes relations avec la Chine et en fait les États-Unis sont tout entiers concentrés sur la guerre contre le terrorisme et sur le Grand Moyen-Orient, même s'il n'y a pas que le Moyen-Orient. Et donc la lecture quand même des États-Unis, c'est qu'ils ont fait une erreur. Ils sont battus au mauvais endroit contre mauvais ennemi et sans doute de la mauvaise manière. Et pendant ce temps, la Chine en a très largement profité, toujours avec le sourire. Et c'est seulement à partir de 2008-2009, donc avant, c'est très important, avant l'arrivée de Xi Jinping, qu'on a commencé à s'inquiéter, à dire que la Chine était, c'était le langage qu'on utilisait, plus assertive. On s'inquiétait de son expansion navale, de ce qu'elle voulait faire dans l'océan Indien. C'était l'idée d'un collier de perles dans l'océan Indien, un collier de perles de base dans l'océan Indien. On s'inquiète aussi de ce qu'elle fait, évidemment, en mer de Chine du Sud. Et donc, la grande question, en fait, qui se pose et que vous avez posée pour Xi Jinping, c'est est-ce qu'on est dans une logique de puissance tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire, voilà, en gros, communiste ou pas communiste, une puissance qui devient très forte économiquement, devient forcément très forte militairement, veut avoir une zone un peu exclusive, hein, comme les États-Unis ont eu avec la fameuse doctrine Monroe et l'Amérique latine. Elle veut être une puissance mondiale, elle veut aussi faire valoir son vocabulaire, ses intérêts, ses problématiques légitimes à l'intérieur des organisations internationales, voire créer elle-même ses propres organisations internationales. Et donc, à ce moment-là, on a juste, j'allais dire, une transition de puissance, hein, assez classique, comme à la limite, les Britanniques se sont affaiblis et les Américains ont pris leur place dans les années 40-50. La question, évidemment, qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a uniquement cela, c'est-à-dire juste le fonctionnement naturel d'une puissance qui est au-delà de tout ce qu'on n'a jamais connu. Je veux dire, en termes de population, de potentiel, en termes de PNB, en termes de potentiel militaire aussi, même en gardant, ils sont aujourd'hui à 2% de leur PNB en dépenses militaires. Si le PNB explose, les dépenses militaires vont exploser. Donc, je veux dire, de toute façon, c'est tellement géant par rapport à ce que nous connaissons que, voilà, de toute façon, ça posera un problème. Et donc, est-ce que les Américains, leur problème à eux, c'est uniquement la montée en puissance de la Chine? Et l'autre interprétation, évidemment, c'est qu'ils sont quand même encore très largement communistes. Et quand même, tous les jours, on s'en aperçoit dans leurs pratiques internes et en partie dans leur discours international. Et aussi, d'ailleurs, ils retrouvent la vieille solidarité Sud-Sud avec un discours assez tiers-mondiste dans ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. Et à ce moment-là, le défi n'est pas seulement un défi de rapport de puissance, mais un vrai défi en termes de modèle politique. Soit que ce modèle fascine, ce qui est le cas pour quand même quelques personnes, mais finalement assez peu nombreuses, surtout d'ailleurs pour son efficacité, mais surtout qu'il ait la capacité d'exporter d'une certaine façon des pratiques que nous, parfois, nous connaissons un tout petit peu. Les questions de surveillance, c'est des choses que nous connaissons aussi avec l'évolution de nos sociétés, mais avec, évidemment, un degré qui n'est pas du tout le nôtre, et avec la volonté aussi d'affaiblir nos démocraties, de jouer sur nos divisions, avec des critiques que nous connaissons chez nous, sur la question des droits de l'homme, sur les questions raciales, etc., mais sur lesquelles ils pourraient jouer. Donc voilà, la question, est-ce que c'est un défi uniquement géopolitique, pour prendre un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, de relations entre puissances, ou est-ce qu'il y a vraiment un défi, j'allais dire, existentiel par rapport à ce que nous avons considéré pendant longtemps comme étant notre civilisation, d'où le sommet pour les démocraties, par exemple.
Dont on va parler avec Pascal Boniface dans quelques instants, ce sommet de la démocratie organisé par Joe Biden en visioconférence et dans un an en présentiel. Je reviens avec vous, Sylvie Matelis, sur les questions économiques. Essayer de comprendre finalement quelles sont... Alors, on avait pensé que, précisément avec la mondialisation, le développement des échanges, eh bien, peut-être que le régime chinois changerait. Alors, on a bien compris qu'il n'en était pas question. Il y a même un renforcement, particulier du Parti communiste chinois, comme vient de l'exposer Pierre Grosser. Quels sont les défis du commerce international aujourd'hui? Est-ce que la question de la pauvreté a trouvé un début de solution ou pas? La pandémie nous fait replonger dans quelque chose de compliqué et d'assez incertain.
Oui, alors c'est vrai que sur ces 30 dernières années, ce qu'on a vu dans le développement du commerce international, et surtout à partir de 2001 et finalement l'entrée de la Chine à l'OMC, c'est un développement du commerce international favorable à la production et à l'organisation globale de la production et favorable également à la consommation et à l'essor de la consommation. Donc on a vu se réduire la très grande pauvreté de manière plus rapide que ce qui avait été initialement envisagé par Kofi Annan lorsqu'il a lancé les objectifs du millénaire au tout début de ce siècle. Mais on a vu aussi, grâce à une Chine atelier du monde, fortement diminuer les prix à la consommation et donc accéder à la consommation des populations partout dans le monde. C'est très important à rappeler, pas seulement dans les pays occidentaux et les économies les plus avancées, mais partout dans le monde, on a vu la population, on a vu poindre une classe moyenne, se développer une classe moyenne qui avait accès à une consommation à laquelle elle n'avait pas accès précédemment. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une favela brésilienne aujourd'hui, vous achetez un téléviseur écran plat, vous achetez une machine à laver, un lave-vaisselle, etc. Et ça, c'est fondamental parce que ça a changé la vie des personnes, mais ça a aussi changé la perception que les personnes avaient. Je crois que tous les mouvements sociaux qu'on a vu poindre à la fin de l'année 2019 viennent aussi du fait que on s'habitue très vite à ce mode de consommation, on s'habitue très vite à ce niveau de vie et qu'au fond, dès qu'il y a une crise ou un risque de crise ou potentiellement de l'inflation ou d'autres éléments qui peuvent menacer ce niveau de vie que vous avez atteint, eh bien vous craignez un déclassement. Et ça, c'est un sentiment extrêmement fort qui a été largement sous-estimé par les tenants du doux commerce, persuadés que le doux commerce, le commerce, favoriserait la coopération entre les pays, en sous-estimant les velléités de puissance de la Chine, mais aussi que la classe moyenne stabiliserait les relations internationales et limiterait les guerres. Et ça, c'est vraiment l'erreur. Et aujourd'hui, on est à un point clé et à un point de changement. Alors, le changement, il n'arrive pas aujourd'hui. Il y a un début de changement dans les années 2008, après la crise de 2008. C'est, au fond, cette idée que, plusieurs idées, que la surconsommation est un véritable péril. On le voit avec le changement climatique et la lutte contre le changement climatique qui remet en cause ce modèle. L'idée que, certes, la pauvreté a diminué, mais les inégalités se sont amplifiées avec son lot d'instabilité largement sous-estimé. Et puis, beaucoup plus récemment, ce qu'on va voir arriver dans les années qui viennent, c'est cette augmentation de l'inflation. Et est-ce que finalement, on n'est pas en train de rentrer dans un monde inflationniste, dans un monde où les prix augmentent très rapidement, donc les inégalités s'amplifient encore, ce qui déstabilise. Et une demande également du consommateur de protection et de produits qui respectent ce principe de précaution qui est de plus en plus porté par les sociétés civiles. Et là, ça change un petit peu la donne. Ça ne veut pas dire qu'on va démondialiser, très clairement non, mais ça veut dire qu'on va adapter le commerce international à ces nouvelles demandes et à ces nouvelles préoccupations.
Et l'inflation, c'est aussi l'inflation sur les matières premières agricoles, ce qui pose bien évidemment... un problème énorme. Vous avez parlé du climat, on l'abordera pour simplement expliquer peut-être que le climat est désormais un enjeu incontournable de la politique étrangère des grandes puissances. Avec vous, Pascal Boniface, le sommet pour la démocratie, dans quelques jours, organisé par Joe Biden. Il y a ceux qui sont invités, ceux qui ne le sont pas. Quelques surprises parmi les pays invités. Le numéro 1 brésilien, Narendra Modi pour l'Inde.
La Chine n'est pas invitée, la Russie non plus. C'est un monde à nouveau très divisé. Est-ce qu'on assiste à un retour en arrière, Pascal Boniface?
D'autant plus retour en arrière que cette idée est tout sauf une idée neuve, puisque la première qui avait parlé d'un sommet démocratie, c'est Madeleine Albright, à la fin de son mandat, qui voulait faire ça à Varsovie pour bien montrer la différence. Et à l'époque déjà, c'était le ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui avait dit que ce n'était pas une si bonne idée que cela et que les critères pouvaient être flous. Et effectivement, comme vous l'avez dit, quand on voit la liste des pays invités, on se demande quel est le critère. Mmh. Si tous les pays invités sont des démocraties, moi je suis l'avant-centre de l'équipe de France. C'est vraiment très sujet à caution. Donc il y a deux réalités. Oui, il y a des pays démocratiques, des pays qui ne le sont pas. Il y a un problème de démocratie en Chine, c'est clair. Mais ce n'est pas le sujet pour les États-Unis. Mmh. Le sujet pour les États-Unis, c'est la rivalité montante, la montée en puissance de la Chine. C'est bien plus ça qui les inquiète. Lorsque Nixon et Kissinger font un pacte avec Pékin, Pékin n'est pas une démocratie. Et Pierre Grosset le rappelait tout à l'heure, après Tiananmen, les Américains passent assez vite l'éponge. Et à l'époque, la Chine n'était pas non plus un modèle de démocratie. Donc on voit bien le caractère, je dirais, idéologique, au sens où ça masque les réalités de ce sommet des démocraties, qui est une façon, disons, habile pour les États-Unis de dire « notre opposition à la Chine est sur des valeurs et pas sur la rivalité ». En fait, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a effectivement une opposition de valeur entre les États-Unis et la Chine. Personne ne peut le nier. Mais le sujet majeur pour les États-Unis, c'est bien l'angoisse d'être dépassé par la Chine. Et donc, ils font tout pour essayer de rallier autour d'eux. Et ils ne vont pas dire aux pays européens « venez à mon secours, la Chine va me dépasser parce que pas grand monde ira au secours des Américains ». S'ils disent « nous sommes des démocraties en danger », là, ils ont un peu plus de chances d'avoir du monde. Mais il eût été préférable d'avoir des critères plus sélectifs parce que là, ne serait-ce que par la composition des pays qui vont participer à ce sommet, eh bien, on voit bien qu'il y a une sorte de fake news dans ce sommet des démocraties.
Votre commentaire, Pierre Grosser, sur ce sommet?
Oui, effectivement, c'est une idée qui est assez ancienne, mais évidemment qui s'est mise en place dans un contexte tout à fait différent. Donc, Madame Roy avait commencé quand même cette communauté. Ça a été relancé aux alentours de 2008 par les deux candidats aux élections présidentielles américaines. Mais c'était autant de la démocratie triomphante. C'est-à-dire que quand même, on pensait exporter la démocratie, faciliter la démocratisation. Et quand il y a eu les révolutions arabes en 2011, on avait l'impression qu'il y avait quand même encore un sens de l'histoire. Or là, on a l'impression que le sens de l'histoire, c'est plutôt inversé. Et d'ailleurs, le problème pour les États-Unis est moins quand même d'essayer de regrouper les démocraties face à la Chine, c'est d'essayer pratiquement de se redonner une légitimité démocratique. Parce qu'ils ont quand même connu un épisode, enfin pas qu'un épisode, mais 4 ans, mais surtout un épisode en janvier que nous connaissons tous, qui montrait les risques sur la démocratie.
Avec l'attaque sur le Capitole.
Voilà. Et aujourd'hui, une partie de reconstruction du soft power, c'est d'essayer de dire on a encore des valeurs qui sont importantes, nous sommes en train de nous réformer, nous transformer. Il y a aussi l'ambition d'internationaliser Black Lives Matter, etc., comme ils l'ont fait dans les années 70, après le mouvement civique. Il y a beaucoup de comparaisons avec les États-Unis des années 70, une crise économique, des difficultés économiques, des difficultés de la démocratie, des mouvements raciaux, des mouvements sociaux, etc. Et il s'était finalement refait une virginité dans les fins des années 70-80, en exportant aussi, justement, ce mouvement civique, en disant, nous avons été capable de nous reformer et les autres démocraties faites la même chose et cette démocratie complètement réformée, nous l'exportons. Ils ont fait la même chose avec le New Deal. Crise dans les années 20, crise dans les années 30, le New Deal, on exporte le New Deal dans les années 40. Et le problème, c'est que je ne suis pas sûr, alors que beaucoup d'Américains disent on va faire la même chose dans les années 80, enfin, que dans les années 80 avec Reagan qui avait redonné aux États-Unis leur stature, qu'aujourd'hui les États-Unis soient capables d'avoir ce type de rebond. Je pense que les divisions qu'ils ont sont bien plus importantes dans les années 70-80.
Sylvie Matelli, avec vous, toujours sur l'économie, qu'est-ce que l'on peut dire finalement des gagnants et des perdants de la mondialisation, du développement du commerce international? On peut peut-être parler de l'Afrique à ce stade de l'émission, et j'ai toujours un peu tendance à en parler seulement à la fin de nos émissions. Nous en parlons. La place de l'Afrique dans la mondialisation aujourd'hui?
Alors, dans la mondialisation, il y a effectivement eu des gagnants et des perdants. Ceux qui ont le plus profité de la mondialisation, ce sont les économies émergentes, Chine en tête et en particulier l'Asie émergente. Et puis, dans la foulée, les pays, les économies avancées, qui ont relativement moins profité, mais parce qu'elles avaient déjà atteint un tel niveau de développement qu'au fond, il y avait quand même un retard à rattraper. Après, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de pays qui se sont marginalisés dans cette mondialisation, qui ont perdu des parts de marché, si vous me permettez l'expression. Ce sont une partie partie des pays africains et puis l'Amérique latine. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui autour de, dans le débat sur la mondialisation et la pertinence et les conséquences positives ou négatives de la mondialisation, c'est que le débat a quelque peu changé, évolué ces dernières années. C'est-à-dire, dans les années 90, au fond, quand on a vu monter les mouvements anti-mondialisation à Seattle et ailleurs en particulier, la critique qu'ils portaient de la mondialisation, c'était la critique sur ces pays qui n'arrivaient pas à prendre le train de la mondialisation et qui se marginalisaient dans la mondialisation, donc les pays africains et autres. Et aujourd'hui, au fond, alors même que la situation est toujours la même, on voit depuis une dizaine d'années, alors ça a commencé au moment de la crise de 2008, mais ça s'est véritablement renforcé dans les années 2010 et ça a été illustré par le vote du Brexit, l'élection de Donald Trump. On voit que les pays les plus avancés, les sociétés civiles dans ces économies les plus avancées, se sont inquiétés des effets pervers de la mondialisation sur une partie de la population, sur cette classe moyenne. Alors, pas la population la plus pauvre, d'ailleurs, c'est pas celle-là qui s'est positionnée, mais plutôt sur cette classe moyenne et cette peur de déclassement. Et au fond, c'est inquiétant parce que la situation est toujours la même et les pays qui se sont marginalisés dans la mondialisation sont aujourd'hui, au gré des crises, toujours plus marginalisés, avec toujours plus de difficultés. Et c'est le cas des pays africains. Alors, ce qu'on observe par contre en Afrique qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en train, pour certains, de se régionaliser. C'est-à-dire, il y a une montée en puissance des flux économiques régionaux qui peut peut-être être une opportunité aussi pour eux de parvenir à prendre ce train de la mondialisation et du commerce international. Mais ça n'est encore qu'un phénomène marginal, en tout cas au niveau macroéconomique. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe et qui a un impact majeur sur les flux commerciaux internationaux.
L'Afrique, mais aussi l'Amérique latine, Pascal Boniface, finalement, centre d'une concurrence très très forte et de plus en plus forte entre la Chine et les États-Unis pour l'Amérique latine et l'Europe pour l'Afrique.
Pas seulement l'Europe pour l'Afrique. Un des grands changements au cours des 30 dernières années, c'est que l'Afrique était complètement à l'écart de la globalisation, a sauté les deux pieds joints dans la globalisation. Et que beaucoup de gens disent que c'est le continent de l'avenir. The Economist pouvait titrer The Hopeless Continent en 2000, je crois. Plus personne ne titrerait que c'est le continent sans espoir aujourd'hui. Et en fait, il y a une très grande concurrence. L'Afrique a été un peu abandonnée après la fin de la guerre froide, puisque les Américains ont dit qu'il n'y a plus de soviétiques, ce n'est pas la peine qu'on ait courtisé des pays africains. Les Européens se disent, bon, on va plutôt regarder à l'est qu'au sud. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a non seulement l'Europe revient en Afrique, la Chine est très présente, la Russie revient en Afrique. Il y a le grand sommet de Sochi, Russie-Afrique. Et puis, il y a également la Turquie qui est très active
en
Afrique. Les Émirats arabes unis sont également présents. Le Japon se dit, il y a 54 voix à l'ONU, ça m'intéresse. Et donc, il y a un afflux et l'Afrique est multicourtisée. Donc, tant mieux. Alors, par exemple, par rapport à la Chine, devant l'enthousiasme initial, chouette, on a un partenaire qui va développer des infrastructures. Là, on voit le piège de la dette. Mmh. On voit bien aussi le racisme de certains Chinois à l'égard des Africains et le fait que très souvent, on importe de la main-d'œuvre et ça ne profite pas à l'Afrique. Mais en tous les cas, il y a beaucoup plus d'options aujourd'hui pour les pays africains qu'il n'y en avait en 90. Et bien sûr, en Afrique, il y a les tops et les flops. Et malheureusement, les tops qui se transforment en flops, comme l'Éthiopie aujourd'hui.
Et la Turquie, pour poursuivre avec elle, qui est aussi, enfin, dont l'influence est aussi de plus en plus importante sur l'espace post-soviétique, et ce depuis 2014. Pierre Grosser, quelques mots en guise de conclusion.
Ce que vous mentionnez, alors il y a eu des grands espoirs de la Turquie d'avoir un espèce de monde turc de l'Adriatique à la Grande Muraille de Chine. Et ben, ça n'a pas vraiment marché, mais la Turquie est un acteur majeur. Je crois que ce qui est important, c'est que ce que Pascal Boniface expliquait au début, c'est-à-dire cette idée d'un monde multipolaire, on est quand même très largement dedans, mais on est à la fois dans un monde apolaire, on est sous une forme de bipolarité entre Américains et Chinois, ce qui n'est pas tellement rassurant non plus. On est dans une forme de multipolarité où les calculs sont de plus en plus complexes et quand on est en élection présidentielle, je pense que tous ceux qui sont candidats ou toutes celles qui sont candidats doivent réfléchir qu'ils vont avoir des dossiers diplomatiques d'une complexité absolument inouïe. Et puis, dernière chose, on est encore, d'une certaine façon, dans un monde unipolaire. Parce que les Américains ont encore un rôle majeur dans tout un tas de domaines, intellectuellement, dans les organisations internationales. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a un peu les pathologies de tous ces mondes-là en même temps. Et donc, on n'a pas de... une vision du monde très claire sur comment le monde est aujourd'hui. Et donc, si on ne comprend pas comment le monde est aujourd'hui, je crois que ça va être encore plus difficile de comprendre comment sera le monde demain.
Donc, plus que d'ordre, il est question de désordre. Merci Pierre Grosser. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'histoire à Sciences Po et chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po. Merci aussi Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, dont je signale par ailleurs la parution d'un nouvel ouvrage géopolitique, tout simplement, aux éditions Erol. Et cette édition de géopolitique était en partenariat donc avec la Revue internationale et stratégique, dont le dernier numéro a pour titre 1991-2021, rupture stratégique au pluriel. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.